Un des plus grands traumatismes de l'histoire du peuple d'Israël, c'est il y a bientôt 2000 ans, précisément d'après certains comptes, 1940 ans, le temple est détruit et peu après, le peuple d'Israël est envoyé en exil. Exil qui dure depuis 2000 ans. Dès ce jour-là, Chazal ont institué énormément d'actions que nous devons faire pour nous souvenir de la destruction du temple. On a Tikkun Tratzot après minuit, on pleure l'exil du peuple d'Israël, la souffrance qui est actuelle, qui est depuis mille ans, c'est notre lot quotidien. La Katamazon, Bonne Yerushalayim, dans la Hamida, on parle de Yerushalayim, on parle de Tchazen Ha'enen Bushra'et Son Barachamim, nos yeux te voient revenir en miséricorde à Sion, etc. etc. Et Am Israël qui souffre attend avec impatience quand viendra le moment où Dieu dira stop, ça suffit à nos souffrances. Pour cela, de toute histoire juive, il y a eu des espérances dans l'époque messianique. On s'attend à chaque moment, c'est marqué Pitom Yavo, subitement viendra celui que vous attendez. Donc ça peut arriver à chaque seconde. Et Am Israël d'attendre que chaque seconde, bien qu'il souhaite attendre, et ça fait quand même pas mal de temps qu'on l'attend, Mashiach peut se dévoiler. C'est pour cela que Israël vit dans une attente, une expectative que ça y est, Mashiach arrive. Et chaque fois qu'il y a des fluctuations géopolitiques, alors c'est normal, vu qu'on souffre, vu qu'on perd, vu qu'il y a le mitzvah, c'est la troisième question que quand on nous pose quand on arrive au jugement dernier, c'est est-ce que tu as attendu la Yeshua, la rédemption? C'est pas t'attends en buvant un coca, d'accord? C'est attendre et t'en peux plus, quand ça arrive. Donc un bon juif, il écoute et regarde, je crois qu'il y a un petit eps, un petit quelque chose qui se passe, hop, ça y est, c'est un signe précurseur que ça va bientôt arriver. Actuellement, il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs. Rumeurs, c'est pas dans les journaux, c'est pas dans la rue, c'est parmi les grands de la Torah, parmi les tzadikim du peuple d'Israël, comme quoi Mashiach doit venir très bientôt. Mais, parce que j'ai fait tout ce préambule, mais peut-être que c'est encore une espérance qui va avorter de nouveau, tracer shalom, d'autres souffrances et une attente, et c'est pas le bon moment. Néanmoins, il y a une petite lueur d'espoir, c'est que un des grands de la Torah, alors Chaim Kanevski, je raconte l'histoire telle qu'elle est. Elle commence il y a environ 3 mois et demi. Donc, mon fils me raconte qu'il est dans un collège à Ramos, il entend deux avrechim, deux étudiants en Torah, parler ensemble, et un dit à l'autre que l'autre jour il était chez Chaim Kanevski à Bnei Brak, et il y a un chatan, un fiancé qui doit se marier bientôt, qui vient voir Chaim et lui dit, il y a un problème, c'est que nous on habite, la famille habite à Bnei Brak, la famille du fiancé, de la fiancée, habite dans le sud du pays, Bercheva, Netivot, par là-bas, près de Gaza, et on se marie à Hanouka et on discute, on ne sait pas, eux ils veulent qu'on fasse le mariage au sud, nous on veut faire à Bnei Brak, qu'est-ce qu'on fait? Le rabbi ne répond pas. Bon, pour la question de deuxième fois, il ne répond pas. Troisième fois, Kvod Arav, répondez-moi dans cette conférence. Enfin, au sud, ou à Bnei Brak, ou à Bichemin, quoi faire? Il répond, il y aura des grands miracles. Bon, mon fils, moi je suis très branché sur tout ce genre de trucs, donc il m'a dit ça, déjà le Traduka, grand miracle, clic, bon, ça rentre. Un mois plus tard, le Rav Suid, un de nos rabbins de Yeshiva, vient me voir, me dit, son fils lui a raconté que son copain de son fils étudie Sefer Yeshiva juste à côté, Nachalat Moshe, et aussi Khatan, c'est aussi un fiancé, Mazal Tov, qui est un ébou d'Israël, qui est un Israël qui se marie. Et il se marie aussi à Hanouka. Il va voir Rav Chaim Kanevski, il lui dit, Kodara, voilà, j'aimerais acheter un appartement. Il lui dit, n'achète pas maintenant. Attends quelques mois, n'achète pas maintenant, parce que dans quelques mois, beaucoup de gens vont quitter Israël, et les prix de l'immobilier vont baisser, tu pourras acheter très bon marché. Tu te maries à Hanouka? Hanouka, on sera dans les abris. Déjà, j'entends, grand miracle, abri, ça correspond. Vendredi, avant Hanouka, on savait la fête de Hanouka, je me levais tôt le matin, je me suis dit, mais si jamais, ça y est, la guerre éclate, et sa ligne droite, c'est Mashiach, parce que beaucoup de gens parlent de Mashiach. Alors, Rav Don Segal, c'est un des grands sadiques de la génération de Bnei Brak. Un des rabbins de la Yeshiva m'a dit que son frère étudie en chavruta avec Rav Don Segal. Il a dit aux élèves, jeudi, pas celui-là, jeudi d'avant, messieurs, le moment est venu d'acheter maintenant le costume pour le Mashiach. et pas comme le Rav Israël qui a acheté il y a 70 ans et comme ça pour attendre. Celui qui n'achète pas maintenant pourra plus l'acheter bientôt. En parenthèse, j'ai acheté mon costume aujourd'hui. Mazal tov, mazal tov, mazal tov. Un beau costume, tu vois. Donc, miracle, abri, Mashiach. Je me lève le vendredi matin, 5h du matin, je me dis, ça y est, tout correspond. Je peux pas laisser, il faut que je dise quelque chose, parce que après on nous dit, pourquoi vous n'avez pas dit, pourquoi on ne nous a pas dit, c'est toujours comme ça, d'accord? Alors j'ai commencé, voici, j'ai écrit un article, ça s'appelle, ça commence comme ça, à propos du conflit qui est censé éclater pendant Hanouka. J'arrive à l'Yeshiva, je montre ça à un des élèves qui travaille avec moi sur Internet, il m'a dit, quoi d'arabe, si jamais il n'y a rien qui se passe, je vais en reprendre pour un cinglé. Il m'a dit, t'as raison, moi je suis fou, parce que je suis très passionné et tout ça, mais peut-être qu'il n'y a rien du tout. Donc j'ai pas fait paraître l'article. Et voilà, manque de peau. Il y a vraiment le conflit qui a éclaté. Bon, alors j'ai mis sur le blog en mettant la date. Voilà, ceux qui font le calcul verront que ça a été écrit quand même avant Hanouka. Et là-bas, qu'est-ce que je dis? Alors très souvent, on a cru que ma chère viendrait. Et c'est vrai, là aussi, on croit. Et rien peut nous dire que c'est vraiment, vraiment ce coup-là, de façon certaine. Mais néanmoins, c'est tout à fait différent que d'habitude. Pourquoi? D'abord, au niveau général. Si on regarde l'histoire, c'est clair qu'il y a une sorte de, on va dire, de petite fluctuation normale d'exil pendant 2000 ans. Pendant 2000 ans, quelle est la situation normale, hélas, entre guillemets, du peuple juif? On est persécuté, de temps en temps un pogrom, expulsé d'un pays à l'autre en exil. Tout à coup, en un siècle, ce n'est pas des petites fluctuations, c'est des asymptotes, on touche on passe en saturation rouge vif. D'abord au niveau spirituel. Il y a un siècle, en Europe, l'émancipation fait des ravages. Des millions de juifs quittent la Torah. On ne connaît pas de cas pareil durant toute l'histoire. Depuis qu'on est parti en exil, on n'a pas eu de cas pareil. Des millions de juifs. Aujourd'hui aussi, il y a des millions de juifs qui quittent la Torah. Le mouvement libéral, le conservatif, tous ces trucs à la... D'accord, complètement tordu. Mais ce sont des ignorants. C'est des enfants, de gens qui étaient peut-être il y a 3-4 générations pratiquants. Mais ils ne savent rien du tout. Alors pourquoi pas? Après tout, ça a l'air de loi un peu archaïque, bizarre. Pourquoi continuer à faire ça? Faut pas être, un peu plus ouvert. Mais à l'époque, les religieux, les chassidim, qui étaient au Talmud Torah, avec les péotes, la barbe, en 2-3 mouvements, ils rasent la barbe, toc, tac, terminé. Christine. Par millions. Des juifs qui ont la haine du peuple juif. La masse pensante de la révolution russe, c'est des juifs. Staline a dit, j'ai pas besoin de faire le travail, j'ai des rabbinomites autour de moi qui font le travail mieux que moi. La Yitzhakia, la section juive de Staline, des juifs qui recherchaient aussi un juif qui ose faire un truc de Torah, l'envoyer dans les goulags pour une mort certaine de froid et de faim. Parce que qui sait reconnaître maintenant qu'est-ce qu'on achète pour Pessar du Maror, maintenant de la farine, là on entend un bruit de chauffard, il connaît les dates, il connaît tous les trucs bien, et lui-même était là, il a baigné là-dedans. J'étais en Belgique il y a quelques semaines, quelqu'un m'a raconté, novembre 39, des bundistes, le bund c'est un parti juif de gauche, vont devant la synagogue, devant la porte de la synagogue, à Yom Kippour, mangent une côtelette de porc. Ils voient les gens sortir de la synagogue, vous voyez, regardez, nous on mange du porc, Yom Kippour, rien ne se passe. Alors il est où votre Dieu? Novembre 39. Octobre 39, enfin, l'automne. Yom Kippour 39. Dépression spirituelle terrible. Quand on lit les écrits de Rav Israël, il est mort en 1933, il a annoncé la Shoah. On lit ses textes, on voit la tragédie, c'est tragique. Et tout, ça, la débandade totale. Ça, c'est unique. En 2000 ans, on n'a jamais eu une chose pareille. Au niveau spirituel, au niveau physique, la Shoah. Alors, on a souffert durant l'exil. Le grand traumatisme du peuple juif, expulsion d'Espagne, 1492. Ok. Combien ont été tués? Combien ont souffert de l'Inquisition? Ils ont souffert. Expulsés d'Espagne, 80 000. 80 000. c'est beaucoup, mais tu compares à la Shoah, ça n'a strictement absolument rien à voir. La Shoah, c'est tout à fait extraordinaire. C'est pas de l'ordre d'un... Votre histoire de vie n'est pas mal extraordinaire comme ça. Mais là, tu rentres dans l'extraordinaire de l'extraordinaire. C'est complètement anormal. C'est anormal. On ne peut pas dire le dernier siècle, le peuple juif, ça suit son cours. Ça ne suit pas du tout son cours. C'est tout à fait spécial. Le Ramchal et le Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu de Vilna, les deux écrivent il y a environ 300 ans. Écrivent que la Géoula, la rédemption que nous attendons, elle a lieu comme la rédemption qu'il y a eu en sortie d'Égypte. Il se base sur un verset de Micha, qui met cette ramère sinsraim et arrive une flotte. Comme on est sorti d'Égypte, comme ça Dieu nous fera des miracles. Et il explique. Comment est-ce qu'on est sorti d'Égypte? Dieu envoie Moshe Rabbeinu, Moïse, en Égypte. Va voir Pharaon, lui dit, let my people go. Laisse sortir mon peuple. Qu'est-ce qui se passe? Pharaon dit, ouais. Good idea, bonne idée, partez. Que l'on y répond, que quelqu'un m'a dit, j'ai pas vu le film, on m'a dit, non, d'accord, il dit, non, d'accord, non, non. Et qu'est-ce qu'il fait Pharaon? Il dit, on leur raconte des histoires spirituelles, de métaphysique, du mensonge, parce que Pharaon, c'est, il faut être productif, coordonne plus de travail. Jusqu'à ce jour, les esclaves juifs qui souffraient énormément devaient faire des briques, une somme de briques quotidiennes. Sinon, les tortures. Mais on leur amenait la paille. Dès ce jour, décret de Pharaon, vous-même allez chercher la paille. Et tous les juifs vont dans tout le pays d'Égypte pour amener de la paille pour les briques. Eh bien, tu n'arrives pas à faire la somme de briques nécessaire et torture. Le pire de l'exil commence quand de Gaon de Vilna le Ramchal. Lorsque Dieu décide dans le ciel, ça y est, la Géoula est arrivée. Moïse va sauver mon peuple. On appelle cela Et Pkouda, le moment de l'ordonnance. Dieu ordonne la Géoula. Comme une femme qui accouche. Une femme enceinte. 9 mois. Bon, plus ou moins, ça va. Il y a des souffrances, des lourdeurs, des nausées, mais c'est normal. On rentre en phase d'accouchement. Quand c'est contraction. De plus en plus dure. Et une souffrance terrible. On lui dit, c'est bien ou pas bien? Qu'est-ce qu'il doit répondre? C'est bien ou pas bien? Ben, d'un côté, c'est terrible. D'un côté, mais c'est fantastique, d'un côté, parce qu'elle sait que dans quelques minutes, ça y est, le bébé, il va sortir. Il lui dit, c'est génial, tu es en train de prendre tout sur la tête. Elle souffre terriblement. Disent le Ramchal Gaon de Vilna, avant que la Géoula vienne, on arrive aux souffrances les plus grandes, les douleurs d'enfantement du Messie, comme appelle cela Chazal. Comme un enfantement. Après quelques temps, on ne sait pas combien. Et une femme, quand elle accouche, elle ne sait pas. On lui dit, il y a encore une contraction. C'est la dernière. Et puis là, il ne sort pas. Encore une, c'est la dernière. J'ai dit la dernière avant. Oui, non, ça, c'est la dernière de la dernière. D'accord, comme nous, on attend. Allez, il va arriver. Là, c'est encore. Voilà, tous les signes sont là. Et on souffre. Et tout à coup, elle n'est pas la femme. Elle passe d'une situation tragique à un bonheur. Je n'ai pas couché souvent, mais on m'a raconté qu'elle passe d'une situation tragique de douleur, elle sent qu'elle va mourir, à un bonheur extraordinaire, inondé de bonheur. Et puis, qu'est-ce qu'il fait, maman? Eh bien, c'est ça. Il y a le Et Pkouda, là on commence la phase d'accouchement, et après ça s'appelle la Géoula proprement dite, ici sur Terre. Ça commence dans le ciel, ça descend. Tant que ça descend, c'est ici sur Terre, c'est Balagan. Ça veut dire la tempête. Et tout à coup, tac, tout à coup, il viendra celui que vous attendez. Donc pour nous, bien sûr je ne vais pas légitimer pourquoi la Shoah, personne ne sait, et nous ne savons pas, point barre. Il y a petites raisons par-ci par-là, j'en parle dans quelques cours, qui se rajoutent à d'autres raisons que nous ne connaissons pas. On ne connaît pas la raison de la Shoah, mais il y a certaines petites raisons qu'on peut dire par-ci, par-là, parmi les raisons qu'on ne comprend pas. Parmi elles, c'est certainement cela, la douleur d'enfantement du Messie. Le Rav Israël, qui est mort, comme j'ai dit auparavant, en 1933, a dit que le peuple d'Israël est rentré dans la phase des douleurs d'accouchement du Messie, le Tisha B'Av, le 9 Av de l'année Tir'ad. Tir'ad signifie en hébreu « tu trembleras ». c'est l'année 5674. Qu'est-ce qui s'est passé le Tisha B'Av l'année 5674, le premier jour de la Première Guerre mondiale. Là, nous sommes rentrés dans la phase des douleurs d'enfantement du Messie. Alors, on y est encore. Là, qu'est-ce qu'on n'a pas eu sur le dernier siècle ? La Première Guerre mondiale. Après, les bolcheviques, Staline, Hitler, les guerres d'Israël, Nasser, Arafat, Saddam Hussein, Ahmadinejad, Hamas, Hezbollah, et j'en passe. Et j'en passe. Donc on ne peut pas dire maintenant tout est normal. Non, c'est certain qu'on vit un tournant de l'histoire décisif. Troisièmement, retour du peuple d'Israël en terre d'Israël. La Torah dit, Deutéronome 30, et Dieu t'aura en pitié, et comment on fait pitié à la fin de notre exil, mettra un terme à ton exil, et te ramènera à l'éternel ton Dieu dans le pays qu'auront possédé tes pères, et tu posséderas à ton tour. Et même si tu es aux extrémités des cieux, la même il ira te reprendre, l'éternel ton Dieu te ramènera dans le pays de tes pères. Du bout du monde, partout, prenez un immeuble israélien, tu as 20 origines de mondes différents. D'Inde, de France, Maroc, Canada, Suède, où ce que tu veux. Kibbutz Galouyot, retour des exils. Sur nos terres à nous. Comprenez ce qu'on est en train de vivre. Nous sommes les acteurs témoins d'une prophétie dite dans la Torah il y a 3200 ans. Dieu mettra un terme à ton exil. Les chrétiens disaient, c'est impossible, vous serez toujours en exil. Et voilà, tac, dans le baba. On revient. Sur notre terre, elle s'enquiquine un peu, évidemment. C'est pas normal. Ni pas que tout va bien, tout va bien. Cette prophétie, mais nos ancêtres, on disait ça que nous, voilà, moi, papa, ou grand-papa, je serai en Israël. Ils se mettaient à pleurer. Ensuite, de là, c'est notre de liste. Le miracle le plus grand, le plus extraordinaire, le plus fantastique, dont nous sommes les spectateurs et acteurs, le retour d'âme Israël, droit. Ce qui est en soi un miracle pour chaque personne. Chaque personne qui revient, les gens autour disent, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est anormal. Alors si c'était le seul, c'est vraiment normal, mais il y en a un partout, comme ça, dans le monde entier. Alors, une fois un miracle, deux fois un miracle, ça. Miracle international, qu'est-ce que tu dis? C'est clair, il y a ici quelque chose qui se passe. C'est clair. Or, Maïmonide, dans les lois relatives à la Chouva, chapitre 7, alinéa 5, nous dit, la Torah a, comme ça, en Israël, ni Galim, et là, les Chouva. Le peuple d'Israël ne peut être sauvé que par la Chouva. Et peut-être il me dira, peut-être qu'on ne fera jamais de Chouva en restant en galoute, en exil, toute l'éternité, la Torah a assuré qu'à la fin des temps, Bnei Israël feront tchouva. Et immédiatement, ils seront sauvés. Eh bien, on y est, messieurs. Alors, où dans l'échelle, je ne sais pas combien de tchouva il faut, mais qu'on y est, qu'il y a la tchouva dans le monde, c'est indéniable. Partout. Partout. Dieu amène dans le monde actuellement une soif de spiritualité. Ça vient à tout le monde. Mais pourquoi ça vient aussi à nous? Il n'y a rien sans rien. Ben c'est clair, on a donné. 6 millions de juifs morts dans la Shoah, comme ça. Ça n'a pas un mérite, c'est un mérite énorme, énorme. Par quel mérite tu crois que tu as un kassam, allez, il y a 20 ans c'était un scud qui tombe comme ça, d'accord. 39 scuds qui tombent sur Ramat Gan, Tel Aviv, zéro mort. Ils ont dit, c'est une bombe qui ne tue pas. Le numéro 40, il y a eu 39 qui sont tombés là-bas. Le numéro 40 n'est pas tombé à Tel Aviv. Tombé sur une base américaine en Arabie Saoudite. 200 morts. Pas mal. Comment t'expliques que depuis 10 ans, combien de centaines de milliers de roquettes sont tombées en Israël? Combien il y a eu de morts? Quelques-uns? Ce matin, le miracle, on en a parlé ce matin. Faut le faire. Ceux qui n'étaient pas là. 3 missiles GAD sont tombés sur Ashkelon. Il y a eu un mort, 5 blessés graves, 20 blessés légers. Tous nos ennemis. Non mais, comprends ce qui s'est passé. D'un village qui hier soir a fait une manif contre Israël. Et ils étaient à 2 secondes de l'abri, ils n'ont pas été à l'abri. Ils n'ont pas couru vers l'abri. C'est pas contre nous, c'est contre. Alors, comme j'expliquais auparavant, nous on voit ça, bon, fantastique. Oui. Regarde au niveau statistique. Pour envoyer un missile grade, tous les efforts qui sont fournis, la machine de guerre iranienne crée ce missile, ça vient d'Iran. Il achemine au Sinaï. Ils font des tunnels, ils creusent des tunnels sous la terre pour l'amener. Sous le couvert, sous les tirs israéliens, tout l'intelligence service, tous les services d'enseignement sont maintenant en recherche. Qui va envoyer un missile sur tout Gaza dès que l'aviation arrive et les hélicoptères leur tirent dessus? Il arrive à envoyer enfin, tac! Combien d'efforts ont été mis pour que ce grade parte? Il va et tombe sur nos ennemis. Maintenant, c'est pas tombé sur Ramallah. Mais sur Ashkelon, c'est une ville juive, il n'y a pas Ashkelon, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors peut-être t'as un groupe, t'as deux groupes, t'as en tout cas c'est 3 groupes comme ça. Faut tomber sur eux, tombe dans un terrain vague, tombe dans une maison délabrée. Qu'est-ce qu'on dit? C'est l'heureux hasard. Ou Dieu nous fait un petit clin d'œil. Au niveau géopolitique. Il est clair. Si on regarde depuis 20 ans, il y a une force montante dans le monde. L'islam. Vous me direz la Chine. Oui, mais la Chine, c'est au niveau financier. Je parle maintenant au niveau culturel. Même au niveau financier, ils ont du pouvoir. Ils conquissent au niveau social. Aujourd'hui, l'Europe, elle est orientale. La Belgique, en Belgique il y a quelques semaines, il y a des quartiers que c'est. La France, l'Angleterre. Ahmadinejad, cette semaine, a fait un discours de bénédiction du peuple anglais pour Noël, qui a été retransmis sur la radio 4e chaîne anglaise. Et avant qu'il fasse son discours, donc les autorités anglaises ont demandé de voir le discours d'Ahmadinejad, si on peut faire passer ça. Ils ont accepté de le faire passer. Dans le discours, il exhorte le monde à anéantir l'État d'Israël. Alors, c'est pas sur une radio, c'est une radio anglaise. Mais l'Angleterre aujourd'hui, elle est sous influence très prononcée, c'est comme ça. Idem l'Allemagne, idem l'Espagne. Partout. Yado Bakol, Veyad Kolbo, c'est marqué qu'on a été béni. Yado Bakol, sa main est partout. Veyad Kolbo est la main de tout le monde est chez lui. Alors, il enquiquine tout le monde. Tout le monde a des affaires avec lui, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas. Mais partout il est. Il est marqué dans la Kul Shimoni, par Shadlach Lecha 14, que le Mashiach, il pousse sur Ishmaël. Ishmaël, il grandit. Mais nous, on est posé dessus. Donc, plus il grandit, alors Mashiach, il grandit aussi avec. Bien, bonjour. Boum. Il sert à amener Mashiach. C'est marqué le commentaire du Baal HaTourim, à la fin de Parashat Hayasara, c'est marqué, le dernier verset de Parashat Hayasara parle de la mort de Ishmaël. C'est marqué que ces peuplades se sont installées près de l'Égypte, etc. Alpnei Kolechav Nafal. En face de ses enfants, il a demeuré, il s'est installé. Nafal. Rashi explique le mot Nafal, installé. Mais Nafal signifie aussi en hébreu, tombé. Le Baal HaTourim, donc un des grands commentateurs de la Bible du XIVe siècle, il dit tombé. Pourquoi c'est marqué qu'il est tombé? Il dit juste après comment c'est paracha de Toldot, qui nous dit voici les engendrements, Toldot, d'Abraham, de Israël, fils d'Abraham. Pour nous dire, lorsqu'à la fin des temps tombera Ishmaël, alors viendra le Mashiach qui est la descendance de Israël ben Abraham. Donc quand tu vois qu'Ishmaël est en train de grandir, et bientôt il va tomber, ça veut dire qu'on y est. Rabbi Chaim Vital, celui qui donc a rédigé toute la Kabbalah moderne, il a écrit un seul livre qui n'est pas de Kabbalah. S'appelle Etz Adat Tov, l'arbre de la connaissance du bien. C'est un livre écrit de commentaires sur le plat, le sens simple. Et là-bas, sur le Télim 124, que nous disons tous les jours, Shira Maalot le David, Lule Hashem Shaya Lano Yomarna Israël, Lule Hashem Shaya Lano Mekum Alenu Adam. Cantique des degrés à David. si ce n'était Dieu qui était avec nous, dira Israël. Si ce n'est Dieu qui était avec nous, lorsque se lèvera contre nous un homme, alors vivant, il nous aurait dévorés. Demande Abraham Vital, pourquoi c'est marqué deux fois? Si ce n'était Dieu qui était avec nous, dira Israël, si ce n'était Dieu qui était avec nous, alors, lorsque se serait levé contre nous un homme, alors vivant, il nous aurait dévorés. Il dit, sache que durant toute l'histoire, on est opposé à plusieurs royautés, quatre royautés. Babylonie, qui a détruit le temple, après la Perse, Grèce, et Rome. Rome, par extension, tout l'exil d'Occident, dans lequel nous sommes encore aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Il dit, sache qu'il y aura une cinquième royauté. Hors d'exil, on sera déjà ici en Israël. Ça s'appelle Ishmaël. Durant les quatre premiers exils, on dira, si c'était Dieu qui était là pour nous sauver, Loulé Hachem Shayalano. Si c'était Dieu qui était là, alors déjà, on nous aurait complètement ratatinés. Mais quand viendra Ishmaël, alors on dira autrement. Loulé Hachem Shayalano Mekoumalno Adam. Si c'est Dieu qui était là pour nous sauver, qu'on se lèvera contre nous un homme. Alors vivant, il nous aurait dévorés. C'est quoi l'homme? Adam, c'est Am Israël. Le peuple d'Israël l'appelait homme. Pourquoi? Parce qu'il est une seule entité, un homme. Nous sommes tous des âmes du premier homme. Alors que tous les autres êtres humains sont appelés des béné Adam, des fils de l'homme. Nous sommes une seule entité. Attends, il y a un peuple qui est aussi appelé Adam. C'est Ishmaël. Il est appelé Père et Adam. Homme, c'est un homme. C'est la seule religion au monde qui sert le même Dieu que nous. La seule. Le Dieu d'Abraham. Tu en connais une autre? Tu me fais une grimace comme ça. Ils servent avec leur fils aussi. Il y a le Père, le Fils, Saint-Esprit, la Marie, la Vierge. Ils ont toute une collection là-bas. Eux, rien. Que lui. Abraham a prié Dieu. Béni Ishmaël! Et Dieu a béni Ishmaël, il est béni. Ce peuple qui fait la Brit Mila, ce peuple qui a droit à être en terre d'Israël à la place de nous, à l'endroit du temple. Aucun autre peuple n'a pu y être, longtemps en tout cas. Donc au niveau des mérites, il est beaucoup plus grand que les autres. C'est celui qui appelait Adam. Comme ça explique Rabbi Hamital le sens de ce verset-là. Quand se lèvera contre nous un homme, alors vivant nous aurait dévoré. En une seconde. Bombe atomique. Alors Dieu est là pour nous sauver. Comment finit ce Tehilim? Ezrenu, Meshem Adonai, Yosef Shamaï Vaharetz. Ezrenu, sauve-nous. Aide-nous. Ezrenu, Meshem Hashem, au nom de Dieu, Yosef Shamaï Vaharetz. Créateur du ciel et de la terre. Normalement, on ne devrait pas pouvoir s'en sortir, tellement ils sont puissants. Sauve-nous! On a une petite pastille. Regardez, toutes les études géopolitiques rationnelles disent Israël n'a aucun futur au Moyen-Orient. Une petite pastille parmi 1,3 milliard d'Arabes. On n'a aucune chance de survivre. C'est pas possible. Haïm laonu, vivant nous dévorons. Et combien de fois ils ont voulu le faire? Les Goïms ne parlent pas de ça. La guerre des 6 jours. 10 armées. Viennent nous attaquer, petit peuple de rien du tout, la frontière internet faisait 22 kilomètres. La guerre du Golfe, ils envoient des missiles, on croyait que c'était du gaz. Si Dieu ne nous aurait pas sauvés, Ezrenu Meshem Hashem, aide-nous au nom de Dieu, Osé Shema, celui qui est créateur du ciel et de la terre. Pourquoi on nous dit créateur du ciel et de la terre? Bereshit, bara Elohim, au début, Dieu créa le ciel et la terre. Bereshit, que dit Israël Bereshit? Pour Reshit. Il y a deux mots qui sont appelés Reshit dans la Torah. Am Israël, les tzadikim d'Israël, et la Torah. Pour les tzadikim d'Israël, et ceux qui disent la Torah, le monde a été créé, c'est la finalité. Donc ce qu'on peut dire à Dieu, Dieu sauve-nous parce qu'on est la finalité. Dans la mesure où on te représente, on est tes véhicules, on montre ta Torah dans le monde, on pratique ta Torah, on étudie ta Torah. Nous sommes ton peuple. Donc je suis en train de dire au niveau général, Ishmaël est en train de grandir. Ce n'est pas pour rien. C'est à lui qu'on s'oppose à la fin. Maintenant, son nom non plus n'est pas pour rien. Que signifie Ishmaël? Dieu écoutera. Dit le premier Midrash le plus vieux que nous avons, Piqué de Rabbi Eliezer, chapitre 32. Pourquoi est-ce qu'il a été surnommé Ishmaël? Dieu écoutera. Ishmael, Dieu écoutera. Dit Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer Agadol, sachez, c'est le seul rabbin pour produire duquel il est marqué Gadol, le grand. C'est un batchouin, fait chouvalage de 28 ans. Comme ça commence à expliquer de Rabbi Eliezer. Et étudie la Torah, il devient Rabbi Eliezer Agadol. C'est le premier rabbin qui est cité dans toute la Mishnah, dans tout le chasse, dans tout le Talmud. La Kabbalah dit, c'est un Gilgul, il regarde son nom, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Eliezer Agadol, il nous dit, parce que à la fin des temps, Dieu va entendre la voix de la plainte du peuple juif qui crie vers Dieu à cause des souffrances qu'Ishmaël lui fait endurer. C'est pour cela qu'il a été appelé Ishmaël. Ishmaël, comme il est dit dans le Tehilim 55, Ishmaël, Dieu écoutera, Veyaranem, et leur répondra. Ishmaël, il sert à ce qu'on crie à Dieu. Sa finalité sur terre. À quoi il sert ? À nous mettre la pression pour qu'on ne croie plus ni en Tsahal, ni en l'Amérique, ni en papa, ni en maman, ni à l'argent, ni au crash économique, ni rien du tout. Que Dieu. Que Dieu. Alors là, Dieu nous sauve. Dieu veut nous sauver. Il veut qu'on l'appelle. Il veut qu'on se branche avec lui. T'es pas branché avec lui, t'es branché avec tes affaires, ton argent. Allez, crash économique. Bon, il n'y a plus d'argent. Tsahal. Bah, attendez, j'espère qu'on va... Bah, au Hachem, ils font du bon travail. Mais c'est presque un dieu pour des gens. Il est à la place de Dieu. Ben-Gurion, il a dit, dans la charte d'indépendance de l'État juif, je ne mets pas le nom de Dieu. Je mets Tsour Israël, le rocher d'Israël. Moi, je dirais que c'est Tsahal. Les religieux diront que c'est Dieu. Ulmer, ce qu'il a dit à la dernière guerre, je compte sur Tsahal, il n'y a que Tsahal, et je compte que sur Tsahal. Guerre du Liban. Et alors, dans le Baba. Hezbollah est deux fois plus fort qu'à l'époque, et 300 morts pour rien. Que sur Tsahal. Et Dieu ne connaît pas. Le dollar, le crash économique, c'est rien, vous croyez? Dans le ventre de Rivka, elle est enceinte, il y a deux peuples. L'Occident, Edom et Israël, Yaakov. Elle savait Yaakov. Et ça bouge dans tous les sens. Elle croit qu'elle a un seul enfant, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle va voir les prophètes de l'époque, Shem Ve'Ever, lui disent, t'as deux peuples dans ton ventre. Où le homme, mais le homme y est ematz. Rachis sur place. Quand l'un monte, l'autre tombe. Quand l'un tombe, l'autre monte. C'est marqué aussi dans Megillah, traité Megillah, page 6a. Immal'a hechorava. Je me remplis de la destruction de l'autre. Tsor, c'est une ville d'Egoïm, n'a été construite que par la destruction de Jérusalem. Il y a un flux qui vient. Maintenant, où il passe dans la Kdoucha et ça monte, et forcément la Touma, elle baisse, ou c'est le contraire. Et ça, sa force numéro un, c'est le capitalisme. 2000 ans qui tient le monde comme ça. Et maintenant, explosion, implosion. J'ai quelqu'un que je connais dans la finance à Londres, il m'a dit, c'est Yad Hashem, la main de Dieu. Du point de vue statistique, c'est presque impossible. Tellement, par hasard, tout ce qu'on ne croyait pas, tout ce qu'on tac, plus ça, c'était impossible statistiquement, c'était une chance sur des milliards. Tac, 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 tac. Que dit notre spécialiste en finance?
Oui, c'est le plus gros problème dans les modèles, c'est qu'ils n'ont pas pris en compte les cas extrêmes.
Cas extrêmes. Eh bien, on a un cas extrême devant nous. La main de Dieu. Alors, que dit la dernière page du traité Sota? Alors que Machiav revienne, toute une liste de choses qui est là-bas, je n'ai pas un Sota. Hein? Ayokariam, les prix vont monter. La vigne donne son fruit. Il y a une production. C'est pas qu'il y a la famine. Il y a tout ce que tu veux. Il n'y a pas d'argent. Les gens crèvent de faim parce qu'il n'y a pas d'argent. Alors, tu passes chez tout, il y a les magasins devant toi. Il n'y a pas d'argent. Les ennemis de la personne, les gens de sa maison. Shambait. Qui n'a pas de problème Shambait? Ou juste le problème numéro un de tout le monde. Shambait. Éducation. Le fils se lève contre son père. La bru contre sa belle-mère. La fille contre sa mère. Conflit des générations. La face de la génération est comme celle du chien. La face, c'est le dirigeant, comme des chiens. Combien de dossiers de corruption ils ont? Ou de harcèlement sexuel? Le président de l'État d'Israël, Le Harav qui monte sa face. Petite parenthèse. Tant que le Harav, on y croit, son mensonge, il est puissant. Mais quand on comprend que c'est un menteur, que la tête de l'État d'Israël confisque les indemnités payées par l'État allemand aux rescapés de la Shoah, et qu'eux doivent faire une manif l'année passée, des croulants de 80 ans faire une manif, j'ai pas de quoi manger, des gens qui étaient à Auschwitz. L'État d'Israël confisque ça. Mais imagine que la France faisait un truc pareil. La France confisque l'argent que donne l'État allemand à la France pour donner aux rescapés des camps. Mais ça, c'est un scandale. Et les Juifs eux-mêmes font ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Gay Pride international, la veille de Rosh Hashanah, à Jérusalem, la ville sainte. Elle est belle. Alors, quand on voit ça maintenant, c'est à côté de la plaque complètement. Les gens, qu'est-ce qui se passait? Le mensonge est en train de se dévoiler. Quand on y a cru au sionisme athée, c'est ça, mon Dieu. Comme dit le Maharal de Prague, avant que Mashiach revienne, le vrai pouvoir de Dieu, il faut que tous les autres pouvoirs disparaissent. Sionisme athée. Internet, la pornographie, le sexe. Combien de malheurs ça fait aujourd'hui? Les gens commencent à comprendre que c'est dangereux. Le dollar, le capitalisme, l'argent, la drogue dans le monde entier. Qui n'a pas goûté? Un type normal qui n'a pas goûté de la coke ou du hash, il a un problème. C'est pas normal. Pas normal. Qui n'a pas trompé sa femme? Ça va dans tous les sens. Toute cette bright là-bas, dans la fin de traité de Sotah, elle dit situation. Terrible, morale, terrible. Comment elle conclut? Elle a le chaen, elle a le shabbat shabbat. Sur qui on peut compter que sur notre Père qui est dans le ciel. Ça, c'est le but de l'opération. Ishmael te met la pression, tout commence à se désagréger autour de toi. Qu'est-ce que je fais? Papa, maman, dollar, quelque chose, faites quelque chose, quelqu'un, personne ne fait rien. Eh bien, tu te mets à crier et tu comptes sur Dieu. Et Dieu te le montre.
Celui-là, il reste quand même une place assez importante quand même en ce moment.
Athée ou juif? Oui, mais au niveau maintenant de l'impact, au niveau de l'idéalisme, la foi que les gens ont dans la direction de l'État sioniste. Quelqu'un y croit encore? 1%. 1%, Oulmert, il a 1%. Mais c'est Oulmert, ok. 43% des jeunes gens ne veulent pas aller à l'armée en Israël. Tant que c'était maintenant, j'avais un idéal. Créer une société qui est notre pays, à nous, à Israël. Ouais. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Parce que ce qu'on leur dit dans les écoles. On favorise les rencontres entre Arabes. On a une femme de ménage qui est une fois par chez nous une semaine. Leur fille, elle a fait des rencontres avec des Arabes dans le cadre de l'école pour. On est parmi. Il faut bien qu'on s'assimile à l'environnement. Mais au niveau déjà de la foi chez les gens, c'est mort. Les gens ont compris que c'est mort. Il n'y a rien à la place. Quelqu'un y croit à Barak? Quelqu'un y croit à Bibi? Quelqu'un croit à ces gens-là? Personne n'y croit. Il n'y a rien. L'un c'est Taref, l'autre c'est Nevela, d'accord? Un c'est tordu, l'autre. Alors qu'est-ce qu'on prend le plus tordu? Le moins tordu. Mais personne n'y croit. Plus personne n'y croit. C'est tous des gens, on sait qu'ils sont tous assoiffés de pouvoir. Point barre, c'est tout. Qui craint, quelqu'un croit à leur discours, chacun, leur publicité, d'accord. L'animal, je crois en lui. Liberman, j'ai vu. On croit en lui. Qui croit? Si on écrit on croit en lui, c'est qu'on croit pas, d'accord. Alors on fait une pub. On peut plus croire à plus personne. On sait très bien que c'est des gens avides de pouvoir, c'est tout. Point barre. Qui maintenant fait les choses par idéalisme, par amour du peuple d'Israël? Ça existe parmi les politiciens? Par amour du peuple d'Israël ou par amour de son trône? Faut pas rêver. Les gens, ils savent. Donc c'est mort, maintenant, il n'y a personne. Alors, ok, non que les gens savent, c'est bon, on compte plus sur eux. Il y a eux, ok, mais on compte pas. Si maintenant Dieu amène le remplaçant, il y a une place vacante pour le remplaçant, qui est Mashiach, qui est Dieu lui-même. Ça, très, très bien. Dans cette mesure, je dis que c'est mort. Par contre, il y a 50 ans, on y croyait à mort. Moi, je suis Dayan. La guerre des six jours. Qui a eu le machin avec la bombe? J'avais une montre, un bar mitzvah, qu'est-ce que j'ai reçu? Des pièces avec le machin, tout ça. Ah, Moshe Dayan, les chansons, et Yerushalayim, qui n'a pas vécu ces machins? C'est mort aujourd'hui, quoi. Bon, alors j'avance vite. Vers quoi on va? Je l'ignore. Mais il y a des choses très claires qui apparaissent dans les textes. Yoma, page 10, à la fin des temps, il y aura une grande bataille entre l'Occident et la Perse. Perse, c'est l'Iran. Ça a l'air actuel. Le Malbim sur Daniel explique qu'à la fin des temps, le monde occidental va attaquer d'une part l'Irak, d'autre part l'Iran. L'Irak, c'est déjà fait. Il ne reste plus que l'Iran. Géopolitiquement, il est clair. Israël ne peut pas laisser Ahmadinejad avoir la bombe atomique. J'en ai déjà 10 fois ici. Donc c'est clair qu'Israël va attaquer. Le jour où Israël attaque l'Iran, qu'est-ce qui se passe? Boum, madame, boum. On a un midrash qui a été écrit il y a 1500 ans, il y a Kouchimoni 499 sur Isaïe. Adirbi Israq, l'année où le Machiav se dévoile, tous les peuples de la terre sont en conflit. Le roi de Perse, donc le roi d'Iran, est en conflit avec le roi d'Arabie, Arabie Saoudite. Que fait le roi d'Arabie? Il va prendre conseil chez qui? L'Occident, américain, venez un peu nous aider contre ce fou chiite. Dit le Midrash, il y a 1500 ans, va le roi d'Arabie prendre conseil chez Edom. Edom, c'est l'Occident. Revient le roi de Perse et détruit le monde entier. Et ça, messieurs, vous me direz, oui, non, mais quand même. Quoi, mais quand même? Aujourd'hui, tu fais comme ça. Comme ça. Il y a l'Europe. Dans le seul pays au monde qui est formaté contre le terrorisme, c'est Israël. La France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne. C'est un problème de faire sauter ça? C'est pas compliqué aujourd'hui. S'ils décident de faire la guerre contre l'Occident, mais s'ils sont ratatinés. Quand le Midrash dit, vient la Perse, détruit le monde entier. Tous les peuples de la terre sont terrorisés. Ils font du bruit. Elles tombent sur leur face et sont pris de contraction comme une femme qui accouche. Et Israël sont terrorisés, ils font du bruit. Et disent où aller venir, où aller, où venir. Que faire? On est en Israël, t'es complètement fou, t'es les missiles. Parce que maintenant c'est que Gaza, mais tu as Hezbollah et l'Iran. Donc on se met à l'abri. Donc qu'est-ce qu'on fait? On monte, on descend, on monte, on est à l'abri. Au bout d'un moment, ok, je rentre, je pars en France. T'es complètement fou en France? En France, il y a des hordes. Et Bahal Yaoud. On va en Allemagne, c'est pas mieux. En Espagne, c'est pas mieux. En Guadeloupe, ils sont des hordes avec des hachettes. Où allez venir? Où allez-vous venir? Il leur dit, mes enfants, pourquoi vous avez peur? N'ayez pas peur. Tout ce que j'ai fait, je fais que pour vous. Pourquoi vous avez peur? N'ayez pas peur, est arrivé le temps de votre Géoula, de votre rédemption. Donc le message de Dieu, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Mais qui? Ceux qui méritent de ne pas avoir peur. Il faut s'enfoncer. Il faut avoir la foi en Dieu. D'après Rabbi Chaim, il semblerait que les prochains mois, les gens vont quitter Israël. Jérémy Gatti, qui est à la Yeshiva, m'a dit que sa femme, lui a dit que sa copine, qui est Kala, est allée voir Rabbi David, lui a dit, a demandé à Rabbi David, elle se marie au mois de Hadar. C'est pas trop tard, parce qu'elle est fiancée maintenant, il ne faut pas attendre trop longtemps. Jusqu'au mois de Hadar, on sera dans les abris depuis longtemps. Rabbi David Abou Hatzera. Maintenant, tout cela, ce sont que des spéculations. Ça peut ne pas être. Ça peut ne pas être. Pourquoi je vous dis tout ça? Pour mettre un peu plus de pression, comme ça on va prier un peu mieux maintenant, c'est tout. Amisraël a besoin de nous, il se peut que maintenant l'armée est en train de rentrer déjà sur terre dans Gaza, c'est un bourbier terrible. Chaque maison à Gaza, c'est une forteresse. C'est nos frères, c'est des jeunes gens qui donnent leur âme pour Amisraël. Nous devons les aider avec nos prières, avec nos études de Torah. Se renforcer en Emouna, en foi en Dieu. Dieu fera des miracles, c'est clair. Il a fait déjà beaucoup de miracles. On va prier à Dieu qui continue à faire cela, il a besoin de nous. Ne faites pas de bêtises, ne faites pas d'averot, arrêtez. Parce que c'est là, peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est la dernière ligne droite. Dommage de rater si près du but. On peut gagner haut la barre, haut la main. On peut perdre terriblement. On a mal de perdre, on veut gagner cette fois. Baruch Adonai, le monde va, mais...